Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo, le magazine de la web radio Micro Rebelle dans le bassin minier à Lens. Micro Rebelle, c'est un magazine d'actualité sociale, économique, écologique, les alternatives dans le bassin minier et au-delà. Je vous rappelle que ce Micro Rebelle est diffusé en direct chaque vendredi de 18h à 19h à partir du site internet de notre web radio micro-rebelle.fr ou au travers de l'appli de la Franf. Et je vous rappelle également que ce magazine est rediffusé par nos amis de Radio PFM 99.9 en hertzien dans la Rajoie et en DAB+. Nous les en remercions et je rappelle les horaires de diffusion. Le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche après-midi, à 14h. Au programme de ce micro-rebelle hebdo, confinement oblige, pas d'agenda social et culturel, la rubrique actualité au travers de la revue de presse, reportage et musique libre. Eh bien, sans attendre, je vous propose de démarrer par notre rubrique actualité. Actualité au travers de la presse, dans le bassin minier, en France et à l'international. On va commencer, hein, ça devient une habitude, par évoquer le Covid et le confinement. Cette semaine, il y avait un jour férié, le mercredi 11 novembre. Celles et ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de sortir ce jour-là ont pu le constater. Ce 11 novembre, à l'opposé des autres jours de la semaine, les rues étaient calmes, la circulation des voitures quasi inexistante. On est effectivement sur un confinement à deux vitesses. Les jours fériés, quand on ne travaille pas et qu'il n'y a pas école, c'est très différent des autres jours. Les jours normaux, entre guillemets, c'est comme si d'une certaine manière, il n'y avait pas confinement. Et on l'a déjà souligné sur cette antenne, c'est bien l'objectif du gouvernement et du patronat. Le confinement doit être compatible avec l'économie, avec la vraie, la grande économie, celle des grandes entreprises, celle du CAC 40, celle des actionnaires, celle de la classe capitaliste. De ce point de vue-là, c'est cohérent. Confinement, oui, mais il faut aller au boulot et il faut que l'école accueille les enfants pour que les parents aillent au boulot. Dans ce contexte, rien d'étonnant à ce que la maladie continue sa progression. Quelques infos à ce sujet, issues de la Voix du Nord cette semaine, le 11 novembre, justement. Le nombre d'hospitalisations proche du pic d'avril. Hier, le nombre total d'hospitalisations s'affichait encore à la hausse, à 31 477, tout près du maximum connu lors de la première vague, 32 292, le 14 avril. Le nombre de patients Covid-19 accueillis en réanimation ne faiblit pas non plus, avec 472 nouveaux malades hier, 4 736 au total, tandis que 472 décès ont été enregistrés à l'hôpital dans les dernières 24 heures, 551 la veille, portant le bilan à 42 207 morts depuis le début de l'épidémie. Et puis, à l'international, 1 263 890 morts dans le monde, souligne cet article de La Voix du Nord. La pandémie a fait au moins 1 263 890 morts dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 238 251 décès pour 10 110 552 cas recensés. Suivent le Brésil, 162 628 morts, l'Inde, 127 059 morts, le Mexique, 95 255 morts et le Royaume-Uni, 49 063 morts. Fin de citation. En clair, l'épidémie est bel et bien là et la presse s'en fait l'écho. La semaine dernière, nous vous avons proposé d'écouter Jean Le Tocard, infirmier anesthésiste à l'hôpital de Lens. Un bel échange en prise directe avec les réalités de l'hôpital et de la politique de santé. Cette interview, n'hésitez pas à le retrouver en podcast et en téléchargement sur notre site microrebelle.fr. Il se trouve que l'avenir de l'Artois donne justement la parole à Jean Le Tocard dans son édition hebdomadaire. Extrait. Je ne vais pas le cacher, mais l'ambiance est morose. Déjà, avant le premier confinement, nous avions perdu 30% de l'effectif. Puis il y avait ceux qui en avaient ras-le-bol. Le premier confinement a sonné leur glas. Ainsi, la fuite du personnel a continué après le déconfinement. Donc, nous attaquons novembre avec moins de personnel, peu de place et pas plus de matériel. Car la pénurie de blouses, de gants, elle est bien là. On sent la crainte, souffle-t-il. Et plus loin, toujours Jean Le Tocard, infirmier anesthésiste à Lens, en février-mars, on savait que cette période était propice au virus de la grippe. À peine le virus arrivé, nous sommes déjà en pénurie. Ensuite, nous sommes déjà en pénurie de gants, alors que nous avons eu 8 mois pour nous préparer. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Rien n'a été anticipé. Nous ne sommes pas armés pour attaquer cette période. Les seuls surpris de la situation, ce sont eux, le gouvernement. Dans l'histoire de la santé, toutes les deuxièmes vagues ont toujours été plus importantes et plus meurtrières. Sans compter qu'il y a eu la période de brassage avec la rentrée. Il n'y a rien de surprenant, analyse encore Jean Le Tocard. Fin de citation. Cette situation semble bien générale. L'avenir de l'Artois donne aussi la parole à Martin, infirmier aux urgences au centre hospitalier d'Arras. Je cite « Depuis la mi-septembre, la fréquentation des gens atteints par le Covid augmente à nouveau aux urgences. Avant, on ne voyait que quelques personnes âgées, et puis on a vu des ados, des enfants. Dès qu'un lit se libère, il est repris. On est obligé de choisir les patients. Quand un lit est libre, il est affecté aux patients considérés comme le plus atteint. On est saoulé, car on a l'impression de devoir repartir à zéro. On a l'impression que ce Covid, on va devoir vivre avec longtemps. » Fin de citation. Et la situation est la même à Hénin-Beaumont, où l'avenir de l'Artois, toujours, donne la parole à Arnaud Chiche, médecin anesthésiste. Je cite « Les professionnels en libéral en ville n'ont pas de matériel. Le prix des gants a explosé. Dans les EHPAD, ils ont du mal à avoir des surblouses. Il n'y a d'aide pour personne. À l'hôpital, on rencontre des problèmes de place en réanimation et pour les hospitalisations. Mais quand on a quand même du matériel, mais quand dans les EHPAD, c'est un véritable scandale. Ils sont devenus des clusters. Aujourd'hui, il n'y a plus de vaccin pour la grippe. On va donc voir arriver de nouveaux patients. Rien n'a été organisé par le gouvernement. C'est une catastrophe. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit que l'hôpital est prêt, mais voilà dans quel état il se trouve réellement. Manque de matériel, manque de médicaments, manque de personnel. Certains personnels travaillent alors qu'ils sont positifs au virus, même des symptomatiques. Fin de citation. Manque de matériel ? On peut se poser la question, à la lecture d'un article, cette fois-ci dans La Voix du Nord. En titre, « Dans les coulisses du stock stratégique de l'État ». Et en sous-titre, « Des palettes du sol au plafond ». Depuis fin juillet, des millions de masques et de blouses sont acheminés dans l'immense entrepôt logistique du géant de la vente de vêtements pour enfants Orchestra, près d'Arras. Santé publique France nous a ouvert les portes de ce stock stratégique de l'État fraîchement reconstitué. Et l'article donne des précisions sur l'ampleur de ce stock stratégique, entre guillemets. Je cite « Les chiffres peuvent donner le tournis. 60 000 emplacements de palettes sont réservés du sol au plafond. Près des 2/3 sont déjà occupés. Pour un total de 200 millions de masques, 80 millions de blouses et 18 millions de tabliers. Ce stock stratégique national sert exclusivement aux professionnels de santé dans les moments de crise, quand ces derniers font face à des difficultés d'approvisionnement. » Fin de citation. Alors, manque de matériel, vous avez dit ? Ce qui est cocasse, c'est que cet article louangeur pour les stocks de l'État se trouve en page 3 de La Voix du Nord. Et juste en vis-à-vis, en page 2, quand on regarde bien, on aperçoit un petit entrefilet que je vous lis. La phrase, c'est Jérémy Brilla qui la prononce, il est directeur des ambulances Sconer à Hazebrouck, Vieux-Berquin, et de Flandre Ambulance à Bailleul. Et donc cette phrase « Ma préoccupation du moment, c'est de trouver suffisamment d'équipements, de protection individuelle, des gants, des blouses. » Fin de citation. Tout est dit. Bien sûr, il y a sans doute un stock stratégique de l'État à Arras, mais sur le terrain, les professionnels continuent à subir la pénurie. L'info de la semaine concernant le Covid, on la retrouve dans La Voix du Nord avec ce titre « La perspective d'un vaccin se dessine ». Et en sous-titre « Espoir mondial face au virus, un vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech serait efficace à 90% contre le Covid-19 d'après ces groupes pharmaceutiques ». Et le journal précise ensuite, je cite, « Le vaccin contre le Covid-19, développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech, est efficace à 90%, ont affirmé hier ces deux laboratoires, après la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3, la dernière avant une demande d'homologation. Cette efficacité vaccinale a été mesurée en comparant le nombre de participants infectés par le coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin et dans celui sous placebo, 7 jours après la deuxième dose et 28 jours après la première. Pour les Américains, qui ont précommandé 100 millions de doses, cela signifie que les premières vaccinations pourraient commencer avant la fin de l'année, à condition que l'innocuité soit confirmée. Dans l'Union européenne, qui a préacheté 200 millions de doses et négocie pour 100 millions d'autres, le vaccin pourrait être disponible début 2021. Fin de citation. Alors, suite à cette annonce, s'en est en suivi tout d'abord un réel enthousiasme, et on peut le comprendre, et ensuite un début de polémique autour de l'obligation ou non de se faire vacciner. Quelques mots tout d'abord concernant la technique mise au point pour ce vaccin. Elle consiste à injecter dans l'organisme non pas le virus, mais une fraction de son matériel génétique, de manière à ce que les cellules fabriquent une partie du virus contre laquelle le système immunitaire élabore alors les anticorps adéquats. C'est une première extrêmement prometteuse, même si de nombreuses questions demeurent. Combien de temps dure l'immunité? Quels sont les effets secondaires? Les formes sévères sont-elles aussi évitées? Les plus fragiles sont-ils immunisés? Etc. Notons enfin que cette annonce de vaccin a au moins eu le mérite de booster les places boursières. Plusieurs sites ont ainsi titré, je cite, « Coronavirus, l'annonce d'un vaccin efficace à 90% fait s'envoler la bourse européenne. Épidémie, dans leur ensemble, les places européennes connaissaient leur meilleure performance sur une séance depuis 6 mois. » Fin de citation. Bref, la perspective de profit juteux rend euphorique. Il nous faut en effet rappeler que l'industrie pharmaceutique, de longue date, compte parmi les secteurs clés de la classe capitaliste. D'ailleurs, comment fonctionne la recherche d'un vaccin sous le capitalisme? Il y a actuellement presque 50 labos qui en sont à l'étape de test clinique pour un vaccin contre le coronavirus. C'est l'étape juste avant celle que vient de passer Pfizer. Et c'est donc une étape importante. Est-ce que ces 50 labos envisagent de mettre en commun leurs expériences, leurs résultats, leurs commentaires sur les essais qu'ils effectuent? Que nenni! Ils sont en concurrence les uns avec les autres, avec l'objectif d'être le premier sur le marché. Il est d'ailleurs possible, au final, que ce ne soit pas le meilleur vaccin, le plus sécurisé, que l'on retrouve sur le marché. Ainsi fonctionne l'économie capitaliste. Eh bien, on va continuer cette rubrique actualité au travers de la presse. Mais auparavant, je vous propose une petite pause musicale. On écoute « Too Late ». Voilà, c'était Too Late de l'album Blue Horizon par le Ramon Moro Quartet. Nous poursuivons notre rubrique actualité au travers de la presse. Toujours concernant le Covid-19, alors il nous faut bien sûr évoquer la mobilisation du 10 novembre dans les écoles. Alors quelques titres et commentaires dans La Voix du Nord cette semaine. Le premier titre, juste avant la grève, hein, Covid-19, une grève d'avertissement dans les écoles mardi. Le titre 2, c'est le jour de la grève. Aujourd'hui, c'est grève sanitaire dans les écoles, collèges et lycées. Et l'article poursuit, une large intersyndicale emmenée par la puissante FSU appelle à la grève ce mardi pour une meilleure prise en compte de la situation sanitaire. Elle demande que le fonctionnement par demi-groupe, désormais autorisé pour les lycées, le soit aussi pour les collèges et les écoles. Et enfin, le lendemain de la grève, par exemple, toujours dans la Voie du Nord, près des deux tiers des profs du collège Rousseau en grève. C'est à Carvin, et l'article poursuit, pas de moyens matériels, pas de moyens humains pour assurer les protocoles sanitaires, pas de communication, pas de considération, gros coup de blues des profs du collège Rousseau qui étaient nombreux à suivre la grève hier. Ils se sentent abandonnés, méprisés, poursuit l'article. Ce mardi, 23 enseignants sur les 39 qui forment l'équipe du collège Rousseau de Carvin, 500 élèves, ont relayé le mouvement national pour dénoncer le manque de moyens et l'absence totale de communication avec leur ministère. Depuis le début, notre direction fait tout ce qu'elle peut pour que ça se passe bien, lâche une prof d'histoire, mais avec des moyens insuffisants. Très concrètement, des agents nettoient et désinfectent régulièrement, mais ils ne sont pas assez nombreux, il en faudrait davantage. Et un peu plus loin dans l'article, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la réduction au strict minimum de l'hommage à Samuel Paty. Déjà assommé par la lourdeur de la gestion quotidienne de la crise, nous avons reçu le coup de grâce en apprenant au dernier moment que l'hommage prévu ne se limiterait qu'à une minute de silence. Dans ces conditions, comment transmettre à nos élèves les valeurs de la République et de la laïcité pour en faire des citoyens éclairés ? Fin de citation. Ce qui est notable, c'est que cette grève de mardi dernier fait suite à la mobilisation qu'avaient connue certains établissements le jour de la rentrée des vacances de Toussaint, c'est-à-dire justement le jour de l'hommage initialement prévu à Samuel Paty. On le sait, cet hommage, la plupart du temps, a été ramené à une minute de silence. Suite à cela, la grogne est rapidement montée sur les réseaux sociaux et au sein des communautés scolaires, entraînant dans certains endroits une mobilisation auto-organisée et rassembleuse. Cette première mobilisation avait d'ores et déjà fait reculer le ministre, qui a annoncé que les 3 sessions d'épreuves de contrôle continu seront annulées dans les lycées et qu'ils pourront éventuellement mettre en œuvre les dédoublements de classes exigés par les personnels. De même, suite à la mobilisation de cette semaine, le ministre confirme cette possibilité de mettre en place des demi-groupes. Bien sûr, le fait que dans les lycées, les jeunes sont en âge de se garder tout seuls, contrairement aux collèges et aux écoles primaires, n'est pas pour rien dans le recul ministériel. Mais les manifestations de la rentrée et de cette semaine, mardi 10 novembre, sont sans doute un exemple et un premier pas d'autres mobilisations à venir. Et puis au-delà du Covid, ou plutôt parallèlement au Covid, il y a l'actualité sociale. Le titre principal concerne évidemment Bridgestone. Par exemple, dans la Voie du Nord, Bridgestone, nouveau coup de massue. Ou encore, Bridgestone confirme la fermeture de son usine à Béthune. La direction européenne du manufacturier, japonais, poursuit l'article, rejette le plan de poursuite d'activité porté par le gouvernement. Hier matin, elle a confirmé la fermeture de l'usine de Béthune fin avril 2021. L'avenir des 863 salariés s'assombrit. Dans les différents articles qui couvrent ces annonces, comme depuis l'annonce en septembre de la décision du patronat Bridgestone, La Voix du Nord relaye les initiatives de l'État et des institutions régionales notamment. Cette semaine encore, La Voix du Nord explicite, je cite, « l'État était prêt à investir l'argent nécessaire ». Ou encore, je continue à citer, Xavier Bertrand déclare « Bridgestone ne va pas partir comme ça. On est en France, on ne jette pas les salariés comme des Kleenex ». Fin de citation. Ou encore cette déclaration d'Olivier Gacquer, maire de Béthune. En 2021, Bridgestone et Béthune auraient fêté 60 ans de mariage. On se demande la pertinence d'un divorce après 60 ans de mariage. Une métaphore qui finit par cette conclusion. Bridgestone n'a pas de cœur. Fin de citation. Bref, les politiques sont impuissants. Ce que confirme Ludovic Bouvier, responsable régional de la métallurgie pour la CGT dans le Nord-Pas-de-Calais, toujours dans la Voie du Nord, je cite. « Je ne suis pas étonné, car cela démontre l'impuissance du gouvernement, l'actuel comme les précédents, laissant tout le pouvoir de décision au privé. L'État et les collectivités locales sont liés, piégés par les lois qui empêchent d'intervenir. On leur donne de l'argent public sans contrepartie. Et on fait des cadeaux au patronat sans être certain de récupérer l'argent un jour. C'est toujours le même scénario. On vient avec un plan B, mais la décision est toujours prise par les patrons. Et les organisations syndicales ne peuvent plus agir comme avant à cause de la réforme du droit du travail. On paie tout ça aujourd'hui à travers Bridgestone, après Continental et Goodyear en Picardie. On a liquidé les producteurs de pneumatiques en France. » Fin de citation. On pourrait ajouter que toutes ces démarches de l'État, par exemple, faire appel à un cabinet de consultants, mener des tables rondes, faire défiler les ministres et les responsables régionaux, est-ce que tout ça ne contribue pas à endormir, à désarmer les travailleuses et travailleurs? Et il en est sans doute de même concernant les éventuels recours juridiques qui se préparent. Est-ce qu'il faut se contenter du terrain juridique comme lieu de mise en œuvre de la lutte de classe? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le patronat Bridgestone mène la lutte des classes contre les travailleuses et travailleurs de l'entreprise. Les échanges dans les tribunaux, par avocats interposés, ne peuvent déstabiliser un tel adversaire. Et pour reprendre le propos du responsable régional de la métallurgie, CGT, que nous avons cité plus haut, même si les organisations syndicales ne peuvent plus agir comme avant à cause de la réforme du droit du travail, c'est sans conteste dans la mobilisation des premières et premiers concernés, les travailleuses et travailleurs Bridgestone, que le rapport de force peut s'inverser. Deuxième pause musicale avant de reprendre notre rubrique actualité, Come Back.
Where are my heroes? Either dead or gone. All I hear though is the voice that lives on. My fear grows that I've been in the wrong, and I'm about as calm as a fucking bomb. Zero patience chasing the Nero, facing frustration. Cut out the slack, take what I rack. But don't you ever think you can chase me away, and I will just
way. straight from the path. I managed to find a way to
Comeback de l'album Mantra, un album de Mosemvi, et on va s'acheminer vers la fin de cette revue de l'actualité au travers de la presse par quelques infos internationales. Tout d'abord concernant la question de l'avortement en Pologne, avec cet article de La Voix du Nord en titre « L'avortement quasi interdit, les Polonaises cherchent l'accès à l'IVG à l'étranger ». Et donc le sous-titre d'une photo, « Malgré les manifestations dans les rues polonaises, le gouvernement a récemment durci la loi en interdisant les avortements en cas de malformation du fœtus ». L'article précise par ailleurs « Conformément aux souhaits des conservateurs au pouvoir, le tribunal polonais a invalidé une disposition légale qui autorisait les avortements en cas d'anomalie fœtale grave. Même si ce verdict n'est pas encore entré en vigueur, les médecins sont déjà plus réticents à pratiquer les avortements légaux pour éviter d'éventuelles sanctions. Après la décision du tribunal, une ONG a reçu plusieurs demandes d'aide de femmes qui étaient déjà en train d'organiser un avortement en Pologne et que maintenant personne ne voulait faire. Ces femmes sont épuisées, mentalement traumatisées. Et plus loin, Avortements sans frontières, AWB, une coalition multinationale d'ONG, indique avoir, depuis le verdict, aidé 40 Polonaises à se rendre à l'étranger pour y avorter ou à préparer un tel voyage, le double de la moyenne mensuelle. Parallèlement, un fort mouvement de colère secoue tout le pays. Les manifestations sont ininterrompues, même dans les régions rurales les plus pro-gouvernementales de l'Est et du Sud de la Pologne. Ces manifestations ont visé également l'Église, qui a largement participé au climat réactionnaire, encore attisé lors de l'élection présidentielle en juillet dernier. Et ces manifestations font reculer le gouvernement polonais, qui vient de suspendre son arrêté. Une belle victoire féministe. Alors on va terminer cette rubrique par les migrantes et les migrants. Cette semaine, La Voix du Nord consacre une double page à une interview de François Jemaine, chercheur sur les politiques du climat et des migrations. Quelques extraits de cette interview. Des chiffres. On compte 3% des populations qui migrent aujourd'hui, ce qui est un nombre stable, puisque c'était déjà le cas dans les années 50. Question de culture sans doute. Nous n'avons pas encore accepté que les migrations constituent une transformation structurelle de nos sociétés et qu'il est aussi vain de vouloir y résister que d'essayer d'empêcher le jour de succéder à la nuit. Dernier exemple en date, la promesse d'Emmanuel Macron, la semaine dernière, de doubler les effectifs de police aux frontières. Évidemment, il dit cela pour rassurer les gens. Dans un contexte de crise, sanitaire, économique, sécuritaire, on a toujours tendance à fermer les frontières. C'est un réflexe. François Jemaine précise qu'il ne juge pas cela, mais qu'il le constate. Mais surtout, c'est justement la fermeture qui crée l'illégalité, le chaos, les situations irrégulières. Fermer les frontières, c'est donner du travail aux passeurs, perdre le moyen de contrôler les allées et venues et créer un autre danger, aujourd'hui largement sous-estimé. Imaginez qu'il y a aujourd'hui aux portes de l'Europe des millions de personnes vivant dans des camps, dans des conditions indignes, sans aucune perspective. Un tiers d'entre eux sont en âge d'être scolarisés et beaucoup, à 12 ou 13 ans, ne sont jamais allés à l'école. Que vont-ils devenir ? Ils sont une proie tellement facile pour les réseaux islamistes. Fin de citation. Et on pourrait ajouter que ces frontières fermées tuent des innocentes et innocents, et pas seulement accidentellement. Dans quelques jours, les 23 et 24 novembre, à Mons, en Belgique, aura lieu le procès d'un policier belge pour une affaire que relate Mediapart. Je vous lis l'essentiel de cet article, dont le titre est « Cet enfant n'est pas une enfant, c'est une migrante ». Je cite donc « Le 16 mai 2018, Mavda est en voiture avec sa mère, son père et son frère, en route pour un endroit où la petite famille connaîtra la paix, enfin. Bien d'autres personnes sont entassées dans la camionnette. Les conditions du voyage sont loin d'être idéales. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est rien comparé à ce qu'on quitte. Un pays en guerre, une vie dans la terreur. Mavda a 2 ans et elle est en route pour un avenir meilleur. Dans la nuit du 16 au 17 mai, dans la camionnette qui roule maintenant sur une autoroute belge, près de Mons, Mavda est blottie dans l'odeur et les bras apaisants de sa mère. Mais à 2h02, un policier tire une balle dans la direction de la fillette. Ce policier a tiré depuis l'une des voitures de police qui traquait la camionnette dans le cadre d'une opération de chasse aux illégaux. La balle entre près de la narine droite de la fillette, en pleine tête. Le policier a tiré dans le tas. Mavda était dans le tas, un tas d'illégaux. Elle a 2 ans. Mais cet enfant n'est pas une enfant, c'est une migrante. La camionnette s'arrête. Le père de Mavda descend avec la petite dans les bras. Il tend le bébé à un des policiers et supplie. « Please, ambulance! Please, ambulance !» Un policier récupère l'enfant. Il la pose sur le bitume. D'autres policiers arrêtent le père, la mère et le frère de Mavda. Le petit garçon a 4 ans. Il voit sa petite sœur par terre, inconsciente et pleine de sang. Il est sous le choc. Il a 4 ans, mais il est en état d'arrestation, car cet enfant n'est pas un enfant, c'est un migrant. Les policiers refusent que les parents accompagnent leur fille dans l'ambulance. On conduit les parents menottés et le petit en prison. Mavda agonise pendant 30 minutes. Elle meurt dans l'ambulance, seule, le 17 mai 2018. Immédiatement, les autorités belges cherchent quelque chose à raconter pour expliquer la mort de l'enfant. C'est pour le rapport. Le jour n'est pas encore levé qu'elles trouvent une explication. Ce sont les parents de Mavda qui ont utilisé la tête de la petite comme bélier pour briser la vitre de la camionnette, probablement pour jeter le corps de l'enfant dans les roues de la voiture de police et tenter ainsi de la ralentir. Et c'est le traumatisme crânien qui a causé la mort. C'est crédible, ce sont des Kurdes. Allez savoir de quoi sont capables ces gens-là. Les Kurdes, c'est comme des Arabes, mélangés à de l'Afghan. Tout ça c'est pareil. Ces gens n'aiment pas leurs enfants. Ils font des enfants pour se servir d'eux, pour toucher les allocations familiales ou pour encombrer de leur petit corps les roues d'une voiture. Personne n'a tiré de coup de feu. L'enfant est morte d'avoir été utilisée comme bélier. C'est la version officielle dans le premier rapport d'expertise. Le policier rentre chez lui au petit matin, tranquillement. À 7h à peine, on informe le tueur qu'aucune poursuite ne sera engagée contre lui. La mère de Mavda reste en prison, sans possibilité de changer de vêtements. On n'a pas pris la peine de l'informer qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est fini, que sa fille est morte. Le sang de son enfant sèche sur elle. Sa fille n'est plus dans ses bras. Ne reste que l'odeur de sang. Criminalisation des réfugiés, déshumanisation des parents, désenfantisation des enfants. Les autorités belges vont chercher à se débarrasser rapidement du corps de Mavda, dans une fosse commune, sans sépulture, sans nom, sans rien. Dans le même temps, on ordonne aux parents de quitter le territoire, et vite, ni vu, ni connu, le crime parfait. Mais grâce à la détermination des parents, M. et Mme Chavry, soutenus par des gens honnêtes, la petite a pu être enterrée dignement. Grâce à leur détermination et à la mobilisation, le policier a fini par reconnaître qu'il a tiré sur la fillette et que c'est la cause de sa mort. Fin de citation. Procès à suivre donc, les 23 et 24 novembre. L'article de Mediapart se conclut par ces lignes. Ce sera le procès du meurtrier, le policier. Ce sera aussi le procès d'une police, d'une justice et d'une classe politique raciste. Ce sera plus largement le procès d'une Europe criminelle. Que vaut la vie de Mahvda Chavri ?
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Eh bien, ce micro-rebelle hebdo se poursuit sur micro-rebelle.fr ou au travers de l'appli de la Franf et également sur Radio PFM 99.9 et en DAB+, dans la Rajoie. Musique libre, comme toujours sur micro-rebelle. Waves, Ayla Nereo. Poursuivre ce micro-rebelle hebdo par un reportage consacré à l'état du ferroviaire dans la région. Depuis que l'État français a offert aux conseils régionaux la possibilité d'ouvrir le marché ferroviaire à la concurrence, la région Hauts-de-France s'est engouffrée dans la brèche. Quelles en sont les conséquences pour les cheminotes, les cheminots, les usagères, les usagers, la qualité du transport et la sécurité ? C'est un échange avec Marc Lambert du syndicat Sudrail et c'est un échange, un reportage réalisé par Elsa.
Marc Lambert, je suis membre du bureau régional Sudrail et je suis le référent des conditions santé et sécurité au travail sur le périmètre TER Hauts-de-France.
On te contacte aujourd'hui pour discuter un peu de la situation du ferroviaire, notamment dans les Hauts-de-France. Est-ce que tout d'abord tu peux revenir sur ce qu'est la réforme ferroviaire ? Il me semble que ça date de 2018, dans un communiqué de Sudrail datant du 25 août 2020, donc Sudrail Hauts-de-France. Il est écrit que la réforme aurait pour conséquence la fin du statut, l'ouverture à la concurrence, la convention collective, la transférabilité des cheminots, la mise à disposition du savoir-faire, l'éclatement de l'entreprise en société anonyme, l'abandon du fret public, etc. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ces points ?
Ben, en fait, c'est l'ensemble des points, c'est le combat qu'on a mené en 2018 et qui malheureusement a été perdu et on en paye les conséquences aujourd'hui. En gros, aujourd'hui, le président Bertrand a décidé d'ouvrir trois lots à la concurrence. Donc l'étoile de Saint-Paul, la ligne Paris-Beauvais et l'étoile d'Amiens. Qui aurait pour conséquence, si la SNCF gagne pas les marchés, que les cheminots soient transférés à la concurrence, avec comme conséquence perte de leur statut et perte des droits sociaux. Et même si la SNCF venait à gagner les marchés, ça serait une filiale. Donc les cheminots qui seraient transférés dans cette filiale perdraient aussi leurs acquis sociaux et seraient soumis à des accords de branche qui seraient négociés après leur arrivée.
Ça, c'est spécifique aux Hauts-de-France parce que Emmanuel Macron a offert aux conseillers régionaux la possibilité d'ouvrir donc le marché ferroviaire à la concurrence. J'ai cru comprendre qu'il y avait des régions qui avaient refusé ça.
C'est ça, ouais, comme la Bretagne qui ont signé 10 ans, je crois, pour maintenir la SNCF 100% publique. Ouais.
Pourquoi Xavier Bertrand, donc, qui est à la tête du conseil régional des Hauts-de-France, a choisi cette option ?
Parce qu'il est anti-SNCF et il passe son temps avec M. Dersin à nous tacler sur Twitter. Et en fait, il se sert de la concurrence pour se propulser sur 2022. Il a promis l'ouverture à la concurrence à son électorat et il a dit que s'il n'était pas réélu président de la région en mars 2021, il ne serait pas légitime pour se propulser à la présidentielle de 2022. Il y a pas mal de difficultés à la SNCF. C'est pas moi qui vais dire le contraire, mais elles sont dues à des politiques destructrices d'emploi et c'est pas l'arrivée de la concurrence qui améliorera les choses. Enfin, demain, il manquera toujours du personnel pour entretenir les rames. Demain, il manquera toujours du personnel pour entretenir les voies. Demain, il manquera toujours du personnel pour renseigner au plus près les usagers. Et ce qui est fort de café, c'est d'entendre dire quelqu'un comme Xavier Bertrand, qui a participé sous le gouvernement Sarkozy à la casse de l'entreprise SNCF, dire que la concurrence va régler tous les maux. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une politique nationale de développement des services publics, dont la SNCF.
Là, tu parlais de trois endroits où Xavier Bertrand voudrait ouvrir à la concurrence, trois endroits spécifiques dans les Hauts-de-France. Tu parlais aussi de la conséquence que ça pourrait avoir suite aux appels d'offres pour les travailleurs et les travailleuses qui seraient donc plus affiliés à la SNCF. Est-ce que ça aurait une conséquence sur l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de toute la région ?
Au jour d'aujourd'hui, non. Mais en 2023, c'est l'ouverture totale du TER à la concurrence, c'est-à-dire que ces trois lots peuvent servir de laboratoire pour demain que l'ensemble des périmètres, l'ensemble du périmètre passe, pourquoi pas, à la concurrence. Hein. Donc voilà, c'est prévu dans les lois 2023. Voilà, sauf changement de cap aux prochaines présidentielles, c'est un risque et effectivement. Concours les cheminots qui sont pas pour l'instant concernés par cette taxe-là, mais qui pourraient l'être dans l'avenir.
Là, tu évoquais les conséquences pour donc ces personnes qui subiraient cette concurrence. Est-ce que tu peux un peu développer toutes les conséquences que la concurrence aurait pour à la fois les personnes qui travaillent, mais aussi pour les usagers, les usagères, sur par exemple le nombre de liaisons, le maintien de circulation, la fermeture ou l'ouverture de gares, ce genre de choses.
Partout là où la concurrence a été mise, comme on a vu au PTT et à Orange, ça s'est traduit au début par une petite baisse des prix et après les prix ont flambé. Les conditions sur le personnel, je vais pas revenir et comparer pour l'instant avec la SNCF, mais enfin Orange, ça a impliqué quand même pas mal de suicides de nos collègues chez Orange et les conditions de travail qui se sont dégradées pour l'ensemble des personnels de ces services qui étaient auparavant publics. Et pour les usagers, les conséquences seront plus graves puisque le prix des billets va augmenter et les trains circuleront avec encore moins de sécurité qu'aujourd'hui, puisque on sait très bien que ceux qui gagnent les marchés vont gagner les marchés parce qu'ils vont dire qu'ils vont produire à moindre coût, et le coût ça se fera sur la masse salariale et sur la sécurité.
Il y a eu un communiqué unitaire CGT, Sudrail, UNSA, FO, CFDT pour une mobilisation et un rassemblement le 23 octobre. Est-ce que tu peux revenir sur la mobilisation passée, présente et à venir ?
Donc déjà nous, le 15 octobre, on s'est réunis à plus de 600 personnes devant le conseil régional pour demander l'abandon de l'arrivée de la concurrence sur les Hauts-de-France. Une délégation a été reçue. Ça a été la comédia dell'arte puisque on leur a appris plein de choses sur les conséquences qu'aurait l'arrivée de la concurrence sur les cheminots. Enfin, c'est les gens qui nous ont reçus du cabinet Xavier Bertrand avaient l'air de connaître super bien le dossier. Donc c'est la délégation Sudrail qui leur a appris pas mal de choses. Il y a peut-être un engagement que si la SNCF venait à gagner les marchés, ça serait pas une filiale mais une organisation dédiée où les cheminots garderaient leurs acquis sociaux. Mais ça, c'est encore à confirmer. Ensuite a eu lieu le 23, donc un rassemblement unitaire, comme tu l'as dit, à l'appel des organisations CGT, Sud, UNSA, FO, CFDT, pour continuer à demander l'abandon de la concurrence. Là, personne ne nous a reçus. Dans les mobilisations à venir, alors il y a des mobilisations où on va aussi rencontrer les candidats à la prochaine élection régionale, pour leur demander quel est leur projet pour le transport public ferroviaire sur les Hauts-de-France. Il y aura l'organisation aussi d'un colloque, si les conditions sanitaires le permettent, courant février. Voilà pour l'instant ce qui est prévu au niveau de l'intersyndicale.
Donc ça, c'est la mobilisation du côté des personnels donc qui travaillent à la SNCF. Est-ce que quelque chose est possible avec toutes les personnes qui sont concernées par l'usage du train, c'est-à-dire une grande partie quand même de la population, donc les usagères et usagers du train, est-ce que j'imagine qu'il y a un souhait à ce que toutes ces personnes rejoignent aussi le mouvement ?
Alors le 23, il y avait un représentant de la Fédération des usagers, l'ex-journaliste de France 3, monsieur Dupagny, qui était présent. Et effectivement, nous, on va les rencontrer aussi, les associations d'usagers, leur indiquer nos craintes et les risques qu'encourent les usagers si demain la concurrence est mise en place au niveau Hauts-de-France. Après, c'est très compliqué parce que les usagers, ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir des trains à l'heure, être assis, avertis. Donc voilà, et aujourd'hui, en raison des politiques de casse qui a eu lieu dans l'entreprise, on a des difficultés, notamment sur les Hauts-de-France. Donc il y a la petite musique jouée par Bertrand et ses sbires pour dire que la concurrence va tout régler, mais c'est totalement faux. L'usager, lui, ce qu'il veut, c'est payer son billet le moins cher possible, prendre son train à l'heure et arriver à l'heure. Voilà tout ce qu'il demande. Après, une partie pense qu'avec l'arrivée de la concurrence, il y aura plus de soucis à la SNCF, mais c'est un peu plus compliqué que, soi-disant, mettre la concurrence pour régler tous les problèmes.
Et alors enfin, dernière question, quels sont vos moyens d'action, vous, cheminots, pour faire face à toutes ces réformes qui vous arrivent dessus ?
Nous, on les a combattus, hein. On a essayé de les combattre, que ça soit 2014, 2016, 2018. Aujourd'hui, mettre un rapport de force contre l'arrivée de la concurrence, c'est assez compliqué. Actuellement, dans le contexte anxiogène qu'on est au niveau de la crise sanitaire, Mais par contre, on reste mobilisé et on va interpeller les politiques, les usagers, et chacun prendra ses responsabilités lors des élections régionales. Il y a des choix qui s'offriront, je pense, en tout cas, on l'espère, entre garder l'ensemble des Hauts-de-France 100% SNCF public, ou alors passer à la concurrence. Il faut qu'à un moment donné, chacun prenne ses responsabilités aussi.
Merci Marc Lambert. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ?
Enfin, à tous celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir sur la page Sudrail Lille, à rentrer en contact avec nous. Toutes celles et ceux qui veulent nous aider dans ce combat-là sont les bienvenus. Voilà, il faut... Alors, on peut penser ce qu'on veut des politiques. Moi, j'ai mon avis là-dessus, sauf qu'il y a une campagne régionale, là, qui arrive bientôt. Il faut s'en saisir pour que demain, les transports... là, on parle de la SNCF, mais on pourrait parler de l'ensemble des services publics. On est une gouvernance qui arrête la casse, en tout cas, au moins sur les Hauts-de-France. Et voilà, je te remercie pour cette interview qui me permet de donner ma vision des choses.
Je te remercie. Je rappelle donc que tu es Marc Lambert, cheminot syndiqué à Sudrail.
Reportage de Elsa à retrouver sur notre site micro-rebelle.fr en podcast et en téléchargement. Donc ce micro-rebelle hebdo se termine, notre émission touche à sa fin. C'est le confinement et justement on vous propose durant ce confinement d'en profiter en quelque sorte pour écouter les nouvelles chroniques mises en ligne par les adhérentes et adhérents de micro-rebelle. J'ai notamment noté dans les jours qui précèdent cette semaine une nouvelle chronique « Les auteurs de la région », une chronique de Gladys, et puis également une autre émission « Urban Contact », une émission qui donne la parole aux gens dans la rue et aux musiciens et musiciennes du coin, une émission notamment prise en charge par Stéphanie. Eh bien écoutez, rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, 18h-19h, sur microrebelle.fr et sur l'appli de la Franf. On va se terminer en musique. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Bye bye.
بعد ضوي توصل على عمك.